Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 19 octobre et on vous accompagne avec le sourire jusqu'à 6h30.
Certaines personnes dans la rue, quand vous avez un handicap, elles ne vous regardent pas forcément d'une très belle manière et peut-être qu'avec plus de sensibilisation, cette personne-là aurait un autre regard.
Cet homme s'appelle Flavio, il n'a qu'une jambe et c'est l'un des visages de la campagne de sensibilisation sur le handicap qui a été lancée hier. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, notamment dans vos quotidiens. 3 clips vidéo et 10 portraits avec l'objectif affiché de changer le regard des Français sur le handicap. Saviez-vous, Omblin, que c'est la première cause de discrimination dans notre pays? Et pour cause, 12 millions de personnes vivent en France avec un handicap, visible ou invisible. 12 millions d'individus confrontés au quotidien au regard désobligeant, au jugement blessant. Ajoutez à cela les difficultés pour obtenir un logement adapté, les problèmes d'accessibilité, les discriminations à l'embauche et vous avez un pays très en retard sur le sujet. On va en parler à 6h10 avec notre invitée Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Avant cela, Omblin, vous nous emmenez à Versailles découvrir une formidable ménagerie.
Oui, imaginez Julien, le château, les jardins, les chenilles, les écuries ou fourmis, des chats, des chiens, des oiseaux, mais aussi des singes, des gazelles, l'exposition. Les animaux du roi redonnent vie à la fameuse ménagerie construite sous Louis XIV. Plus de 300 œuvres représentent les animaux de compagnie, sauvages ou exotiques, qui égayaient les appartements royaux et partageaient le quotidien des adultes et des enfants. Nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs eu droit à leur portrait, comme n'importe quelle personnalité de la cour, le portrait du chat, le général par exemple. On en parlera, nous arpenterons à 5h40 donc les allées de cette exposition, les animaux du roi, avec Nicolas Milovanovitch, l'un des commissaires de l'expo et conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre.
Et puis on terminera en musique, Omblin.
Oui, un destin tragique du rock, celui du groupe Lynyrd Skynyrd.
Retour en octobre 77.
Oui, exactement, quand le groupe est victime d'un accident d'avion, Lynyrd Skynyrd dans la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour Anissa, Adadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour. Alors si je me souviens bien, hier vous nous aviez dit qu'aujourd'hui ce serait la journée la plus chaude de la semaine et qu'on allait pouvoir sortir les t-shirts.
Eh bien je tiens mes promesses, Julien. Puisque d'ailleurs si vous êtes déjà sorti, vous êtes déjà sorti de chez vous. Si vous qui nous écoutez, vous avez ouvert vos volets ce matin, vous avez constaté déjà qu'il faisait bien plus doux. Ce matin à 4h, nous avons relevé 7 degrés à Montélimar, 10 à Millau, 12 degrés à Nancy et Mont-de-Marsan, 15 degrés à Paris, 17 à Cherbourg et 19 à Biarritz. Ça, c'est à 4h du matin. Ça va un peu baisser au lever du jour, mais enfin, ça reste très doux. Cet après-midi, on attend 18 degrés à Strasbourg, 22 à Nîmes et Amiens, 23 degrés à Paris, 24 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux et 28 à Biarritz. C'est bien au-dessus des normales de saison.
28 à Biarritz.
Ouais, il va faire chaud, il va même faire lourd parce qu'on a un vent du sud qui souffle, donc ça accentue encore cet effet de chaleur. Dans le ciel, au nord de la Seine, on a des petits brouillards ce matin, quelques entrées maritimes au bord de la Méditerranée. Mais alors, le soleil s'impose partout cet après-midi et il va faire beau pour tout le monde.
C'est tant mieux. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec le premier journal de ce mardi 19 octobre. Il est 5h sur Europe 1. Bruno Le Maire l'a annoncé hier sur Europe 1. Le gouvernement travaille sur un chèque carburant pour alléger les records de prix à la pompe. Un dispositif similaire existe déjà dans les Hauts-de-France. Nous sommes allés voir comment cela fonctionne. Sommes-nous à l'aube d'une cinquième vague? Le taux d'incidence repart à la hausse pour la première fois depuis la mi-août et flirte avec le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Doit-on s'inquiéter? La réponse de l'épidémiologiste Antoine Flahault dans ce journal. Et puis 150 000 postes de fonctionnaires supprimés si Valérie Pécresse est élue présidente de la République. Promesse de la candidate qui vise le soutien des Républicains. Moins de fonctionnaires, plus d'économies. Une idée, on l'entendra pas si nouvelle.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Nouveau record de prix à la pompe. 1,55€ le litre de diesel, 1,62€ pour du sans-plomb 95. Alors certains Français ont ressorti leur gilet jaune du placard ce week-end, 3 ans après, pour la même raison. Faire le plein coûte trop cher. Le gouvernement, sous pression, ne veut pas d'une nouvelle crise sociale à quelques mois de la présidentielle. Alors pour alléger un peu la facture, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, confirmait sur Europe 1 hier matin travailler sur un dispositif de chèque carburant. Un coup de pouce similaire existe déjà dans les Hauts-de-France depuis 5 ans, 20€ par mois, accordé sous certaines conditions. Reportage de Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Habitante en zone rurale au sud de Lille, Anne-Sophie prend tous les jours sa voiture pour se rendre à son travail dans une zone d'activité de Villeneuve-d'Ascq. Aucun transport en commun possible, plus de 20 km de trajet et un salaire inférieur à deux fois le SMIC. Alors ce chèque carburant de 20 euros par mois est plutôt le bienvenu.
20 euros, c'est la moitié d'un plein. Et comme j'en fais environ 4 par mois, surtout dans le contexte actuel, ça tombe très très bien parce que les prix à la pompe sont en train de flamber. Et c'est un coup de pouce effectivement bienvenu en cette période.
Le dispositif est accessible aussi aux salariés travaillant en ville, mais aux horaires décalés. Une attestation d'employeur et quelques clics sur le site de la région suffisent pour y avoir droit. Il y a 3 ans sur Europe 1, Emmanuel Macron avait d'ailleurs qualifié ce chèque de bonne philosophie. Alors selon Antoine Silani, élu au conseil régional, il pourrait très bien être élargi au niveau national.
Je pense que l'État a mis en place des structures bien plus compliquées qu'un chèque carburant. Alors moi, je ne peux que me réjouir que le gouvernement reprenne les bonnes idées de Xavier Bertrand. Là, la crise énergétique va accentuer les problèmes, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je regrette que le président de la République qui a attendu 6 mois avant les élections pour agir.
48 000 demandes de chèques carburant ont été enregistrées cette année au Conseil régional des Hauts-de-France pour un budget d'un peu plus de 9 millions d'euros. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et le syndicat Force Ouvrière est encore plus radical face à la hausse des prix du carburant. Il demande une prise en charge des frais de transport de tous les salariés.
En parallèle à cette flambée des prix du carburant, il y a aussi l'envolée des tarifs de l'électricité.
Et pour baisser les prix, une solution, relancer le nucléaire. Emmanuel Macron l'a acté à la présentation de son plan d'investissement France 2030 la semaine dernière, et ça passera par la construction de petits réacteurs nucléaires appelés SMR. Europe 1 vous le révélait en exclusivité. EDF a donc choisi hier Europe 1 et la France bouge pour commenter cette nouveauté. Les chantiers devraient d'ailleurs bientôt commencer selon Xavier Ursa, directeur exécutif d'EDF.
Nous sommes en début de projet. Notre but est de pouvoir avoir un premier chantier qui débute en France en 2030 à peu près. L'idée est plutôt d'adresser le marché international et nous visons en fait une taille de réacteur qui correspond à la taille de la plupart des centrales au charbon, au fioul qui existent partout dans le monde et qu'il faudra remplacer probablement très vite dans la décennie 2030-2040. Parce que, un, elles seront vieilles, et deux, parce que le changement climatique nécessitera d'enlever ces cheminées à CO2 que sont les centrales au charbon ou au fioul. Mais alors avec l'idée d'en faire des dizaines, de manière finalement à retrouver les économies, non pas sur la taille du réacteur, mais sur le fait d'en faire plein, et donc d'avoir une usine à les fabriquer. Voilà. Et en fait, le SMR, c'est donc un réacteur de petite taille qu'il faudra fabriquer en de nombreux exemplaires.
Et puis dans les médias, le bouclier tarifaire annoncé par Jean Castex pour atténuer la hausse des prix de l'électricité entraînera une perte nette de plus de 5 milliards d'euros de recettes en 2022, annonce hier du ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt.
Il est 5h passées de 5 minutes sur Europe 1 et on en vient à cette information que l'on redoutait ces derniers temps. Les contaminations au Covid repartent à la hausse.
Le taux d'incidence est à 48,5 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Il flirte avec le seuil d'alerte fixé à 50 alors que l'automne ne fait que commencer et que les températures baissent progressivement. Faut-il s'inquiéter ? La réponse de l'épidémiologiste Antoine Flao.
En plein automne, alors que les interactions sociales se déroulent beaucoup plus souvent à l'intérieur, on se retrouve avec un virus très transmissible à un risque de rebond très clair pendant cette période de l'année. Ce qui est important, c'est que les pouvoirs publics investissent beaucoup dans la ventilation des lieux clos, en particulier des salles de classe, des amphithéâtres, des entreprises, des open space. Dès que les signes de rebond arrivent, et dans les départements où ils commencent déjà à arriver, oui, malheureusement, il va falloir renouer avec ces gestes barrières qui nous ennuient tous, mais qui nous protègent et qui nous protègent en particulier pour les plus fragiles, des formes graves. Mais on peut espérer en tout cas que la saturation des hôpitaux n'aura pas lieu, que les gens souffriront moins et qu'il y aura moins de décès grâce à la vaccination qui va épargner beaucoup de vies.
L'épidémiologiste Antoine Flao, joint pour Europe 1 par Thibault Hue.
Moins de fonctionnaires, plus d'économies. Valérie Pécresse se mue en Margaret Thatcher.
La candidate au Congrès des Républicains qui affirme être la candidate des idées face à ses deux principaux concurrents, Xavier Bertrand et Michel Barnier. Elle veut supprimer 150 000 postes dans la fonction publique si elle est élue présidente de la République. Elle l'a annoncé hier soir au micro de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1. Avec cette proposition, Louis de Ragnel, la présidente de la région Île-de-France, on s'entend faire entendre sa singularité libérale.
Oui, avec sa proposition, Valérie Pécresse veut vraiment se démarquer des autres candidats de la droite. 150 000 fonctionnaires en moins pendant le quinquennat, aucun autre prétendant ne le propose. En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, François Fillon, lorsqu'il était candidat à la dernière présidentielle, avait été jusqu'à s'engager à supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. D'ailleurs, Valérie Pécresse sera dans la Sarthe demain soir, précisément sur les terres de François Fillon, dont elle a longtemps été proche. Ce qui est intéressant, quand on regarde de près ce que dit la candidate de la droite, elle veut cibler ce qu'elle appelle l'administration administrante, En clair, la bureaucratie. Un pari aussi risqué qu'audacieux, alors que le « quoi qu'il en coûte » a été salué par presque tous les groupes politiques. Mais elle le dit, elle veut vraiment faire des économies, 45 milliards accompagnés de 15 milliards d'euros de privatisation, pour permettre à l'État de se recentrer sur la sécurité, la santé et l'éducation. Elle le sait, les marges de manœuvre pour faire des économies ne sont pas immenses. Avec cette proposition, Valérie Pécresse assume donc un choix tranché.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Valérie Pécresse, tout comme Xavier Bertrand et Michel Barnier, qui contestaient il y a quelques jours la primauté du droit européen.
Et Emmanuel Macron a répondu fermement hier au lancement des états généraux de la justice à Poitiers. Le président a rappelé la place que doit avoir l'Europe par rapport aux juridictions françaises et condamne les propos des détracteurs.
Cet humanisme français et européen qui nous fait et nous distingue est à défendre. Je suis étonné, pour rester pudique, dans nos débats aujourd'hui, de voir que dès qu'il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. C'est nous qui l'avons faite et qui l'avons choisie. C'est nous qui l'avons construite. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons bâtis dans nos discussions, puis signés, puis ratifiés, souverainement. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il faut donc les défendre !
Propos recueillis par Stéphane Place, correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest.
On en vient à ces menaces de mort visant un couple d'enseignants à Marseille.
Certaines sources proches de l'enquête indiquent à La Provence que ces menaces n'auraient pas de lien avec les cours qu'ils dispensent. Une enquête est ouverte. Les explications de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Un premier courrier malveillant est reçu par les enseignants à leur domicile peu après la rentrée. Juste une photo lourde de sens, celle de Samuel Paty. Quelques jours plus tard, une courte lettre dactylographiée leur est envoyée. Et puis un troisième message de menace est déposé dans leur boîte aux lettres samedi dernier, le 16 octobre. Une date qui ne semble pas choisie au hasard. Un an, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Le couple d'enseignants a déposé plainte et une enquête est désormais ouverte. Une protection policière leur est attribuée et un soutien psychologique proposé par le rectorat. Selon la procureure de la République de Marseille, aucune piste, aucune explication n'est avancée ou privilégiée pour expliquer le motif ayant conduit à ces faits. Rien ne permet pour l'heure de relier ces menaces de mort à un cours qu'aurait donné un des enseignants. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
On termine avec le football. Ce soir, le PSG reçoit Leipzig en Ligue des Champions.
Et c'est à partir de 21h, une rencontre qui aurait dû se jouer sans trop de difficultés. Mais c'était sans compter sur l'absence de plusieurs éléments importants au sein de l'effectif parisien, Cédric Chasseur.
Oui, à commencer par Neymar. Le Brésilien est revenu de sélection vendredi touché aux adducteurs. Il avait participé pourtant au début de l'entraînement hier matin. C'est ensuite que cela s'est gâté, comme l'a expliqué l'entraîneur Mauricio Pochettino.
La priorité, c'est la santé des joueurs, et en l'occurrence ici, Neymar. Il a ressenti une gêne qui l'a empêché de faire la dernière partie de l'entraînement, la mise en place tactique. Le staff médical a ensuite décidé qu'il n'était pas en mesure de figurer dans le groupe pour affronter Leipzig.
Paris sans Neymar, sans Di Maria qui purge son troisième et dernier match de suspension, sans Paredes, lui aussi blessé pendant la trêve internationale. À cela s'ajoute le mélodrame Icardi qui s'affiche au grand jour sur les réseaux sociaux. L'attaquant argentin en proie à des problèmes de couple avec sa femme et agente Vandanara a manqué les deux derniers entraînements pour tenter de la reconquérir à Milan. Bref, l'atmosphère n'est pas très saine autour de ce Paris Saint-Germain à quelques heures seulement d'un match de Ligue des Champions qui pourrait pourtant lui permettre d'augmenter son avance en tête du groupe A.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de notre titulaire indiscutable, Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h11 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 208 Go for the Gold. Après s'être essayé à l'attelé où sans être transcendant, il a réussi néanmoins quelques bonnes performances. Il s'est totalement transformé depuis que son entraîneur Thierry Duval-Destin lui a mis la selle sur le dos. Il n'a alors cessé de s'améliorer en engrangeant notamment pas moins de 5 victoires dans cette spécialité du trot monté. Et il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas ajouter cet après-midi un nouveau succès à son palmarès. Alors notez bien pour Vincennes, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 8, Go for the Gold.
Et vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Merci Thierry Léger. Bon réveil avec Europe 1, il est 5h11 et le pressing arrive dans moins d'une minute.
C'est votre revue de presse décalée avec au menu. Est-ce risqué de vivre près d'un vignoble ? Un mot barbare, la shrinkflation et des policiers connectés. À tout de suite.
Omblin Roche. Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous confier votre réveil. Il est 5h12, l'heure du pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence rapidement avec les unes de vos journaux. Salaire, le casse-tête des entreprises, titre Les Échos, alors que les pénuries de main-d'œuvre et l'inflation pèsent sur les négociations salariales. Macron choisit de s'afficher en défenseur du nucléaire, peut-on lire à la une du Figaro. Le chef de l'État veut annoncer avant Noël la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR. Et puis, aujourd'hui en France, pose une question ce matin. Neymar, c'est quoi le problème? Le Brésilien s'est blessé une nouvelle fois hier à l'entraînement et ne jouera donc pas ce soir face à Leipzig. Énième couac pour le joueur du Paris Saint-Germain. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous déniché ce matin dans la presse?
Les Français habitant près de vignobles sont-ils plus exposés aux pesticides que ceux vivant loin des terres viticoles? C'est ce que cherche à savoir Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Eh bien, les deux organismes lancent une étude inédite et à très grande échelle. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle. 250 zones sont ciblées. Alors, pas de mystère, hein, c'est là où on produit le vin français. La Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne, le Sud-Est, mais également la vallée du Rhône. 1500 adultes et 750 enfants seront tirés au sort. Et pour effectuer ces analyses de la manière la plus fine possible, c'est une technique de médecin légiste qui va être employée. La même que quand il est nécessaire de rechercher des traces d'empoisonnement, un prélèvement de cheveux et d'urine. Les prélèvements vont commencer dans quelques jours et se dérouleront jusqu'au mois de février. Pendant cette période, les vignes sont moins traitées. Et puis d'autres auront lieu en mars et en août 2022, quand les pulvérisations de pesticides sur les raisins sont plus fréquentes. Alors, il n'y aura pas que les prélèvements effectués. Les enquêteurs vont analyser l'air extérieur, les poussières à l'intérieur des maisons, les fruits, les légumes dans les jardins des habitants. Ils vont essayer de connaître le plus possible les habitudes des personnes testées, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, l'endroit où ils travaillent. Voilà, on va tout savoir sur eux. L'étude se veut extrêmement précise, extrêmement complète, avec une grande quantité de données collectées. Et on fera pareil, bien sûr, avec des personnes vivant loin des vignes. Faut comparer, bien sûr. Il faut savoir que les zones viticoles font partie des cultures qui utilisent le plus de produits phytosanitaires et que les riverains sont de plus en plus préoccupés par les conséquences des traitements des vignes. Voilà, ils vont devoir cependant se montrer patients pour avoir le temps de décortiquer tous ces résultats. L'étude ne sera pas publiée avant 2024. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Et je crois qu'il y a un précédent à cette étude. En 2014, si je ne me trompe pas, un collectif avait fait une étude autour d'une région viticole.
Voilà, mais là,
ils avaient détecté 21 substances, je crois, chimiques dans les cheveux des enfants.
Là, pour la première fois, ils vont sur pratiquement toutes les zones viticoles de France avec des études très, très poussées et surtout avec un comparatif qui sera mis en place.
Avec d'autres populations. Voilà. Merci beaucoup, Ombline. Martin, à vous.
Alors, on parle beaucoup de la hausse des prix en ce moment, ce qu'on appelle l'inflation. Et ce matin, je vous parle d'un mot bien plus barbare, la shrinkflation. C'est la contraction du mot anglais to shrink, rétrécir, et d'inflation. Alors, en quoi ça consiste, cette shrinkflation? Eh bien, c'est une pratique commerciale assez courante qui consiste à vendre de moins grandes quantités au même prix. Mais pour piéger le consommateur, on garde les mêmes emballages. Un exemple, vous mangez des céréales, Julien, le matin?
Oui, ça m'arrive, oui.
Alors, vous aviez l'habitude d'acheter 500 grammes de céréales pour 2,50€, disons. Eh bien, face à la hausse des prix du blé, la marque propose désormais 400 grammes au même prix et dans la même boîte. Comme vous ne faites pas attention quand vous faites vos courses, vous ne voyez pas que les prix ont augmenté. Ce genre de petites arnaques.
Les filous,
exactement. Mmh. Ce genre de petites arnaques se multiplie aujourd'hui dans un contexte de hausse des prix.
Alors, c'est pas une arnaque, le poids est indiqué.
Voilà, tout à fait. Mais ça
on
peut...
a le poisson, quoi.
Voilà, exactement.
Exactement.
Et dans le contexte de hausse des prix généralisés, notamment des matières premières, c'est des pratiques qui se généralisent. Et aux États-Unis, un homme est devenu le spécialiste de la shrinkflation. Il s'appelle Edgar Dvorsky, Mr. Consumer sur Twitter, Monsieur Consommateur. Comme son nom l'indique, c'est un défenseur des consommateurs américains. Et il traque toutes ces petites tricheries du quotidien. Une feuille de papier toilette en moins, un peu d'air dans votre paquet de chips ou une poignée de croquettes manquantes pour votre chat. Alors la vraie question, c'est pourquoi nous faisons-nous encore avoir par ces stratégies qui sont vieille comme le monde. Alors Pierre Chandon, professeur de marketing à la Sorbonne, a sa petite idée. Selon lui, la plupart des consommateurs pensent que les quantités sont standardisées, que le poids des produits est fixe. Mais c'est faux. Une note positive quand même, selon lui, cette stratégie peut avoir du bon, notamment pour la santé. Diminuer les quantités de bonbons ou de chips, ça peut permettre de lutter contre l'obésité, par exemple, même si c'est toujours au détriment du consommateur. Et surtout, quand le contexte international est meilleur, les marques ne font jamais marche arrière en mettant plus dans le même emballage. La shrinkflation, en entourloupe les consommateurs, c'est-à-dire sur le site Slate.
Et puis, il faut dire qu'on a tendance à faire très rapidement nos courses, hein, à passer des heures et des heures.
Très honnêtement, je ne regarde jamais le poids de
l'étiquette. Oui, la petite étiquette. Hein, sur,
en fait, il faut regarder le prix au kilo.
Oui, le prix au kilo.
Oui, le prix au kilo, toujours, bien sûr.
C'est la base.
Et oui,
il faut avoir une pour les croquettes de mes chiens, par exemple. Je suis devenu un expert.
Il faut avoir une petite base de comparaison.
Voilà, merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article à lire dans le Figaro sur une avancée majeure pour nos policiers. Ils s'apprêtent enfin, en 2021, à être équipés de smartphones modernes. Et oui, nos forces de l'ordre ont en effet l'impression d'avoir gagné au loto, tant ces smartphones qui sont en train d'arriver dans les commissariats vont leur faciliter le quotidien.
Alors moi, ce que je comprends pas, ça, Julien, ils n'avaient pas de téléphone avant
Si, ils avaient un modèle Sony datant de 2016, soit une éternité pour un smartphone, d'autant que ce dernier n'avait pas été pensé pour l'usage qu'allaient en faire les policiers. Tout le contraire du Core X4 Neo qui équipe déjà nos armées. Déjà, c'est un modèle français, fabriqué par la marque aixoise CrossCall, réputée chez les sportifs et les amateurs d'activités en plein air. Et pour cause, cet appareil est au smartphone ce que le char d'assaut est à la voiture. Il est blindé, il résiste au sable, à l'eau et aux chutes, le tout sans ajouter de coque extérieure, tant et si bien que le taux de retour pour casse de ce terminal ne dépasse pas 3% selon le fabricant quand il atteint 20% chez les concurrents. Vous devriez investir dans un cross-call, Martin, vu l'état lamentable de votre appareil. Autre avantage, son autonomie.
C'est moche de
l'énoncer
comme ça.
Non, mais non, c'est juste une constatation. Autre avantage de cet appareil, son autonomie, près de 2 jours en utilisation réelle, c'était l'un des critères clés de la Direction Générale de la Police Nationale, la DGPN, qui a également mis le paquet concernant la sécurité. L'appareil fonctionne grâce à un système d'exploitation Android open source qui permet en clair à Beauvau d'installer ses propres couches de sécurité numérique. Les communications seront cryptées et les applications verrouillées.
Alors tout ça c'est bien joli, mais en quoi ces smartphones vont-ils révolutionner le travail des policiers?
Eh bien jugez plutôt, ces engins vont déjà permettre de géolocaliser en permanence les patrouilles, pratique en cas d'urgence. Les agents pourront transmettre en temps réel au commissariat photos et vidéos pour que leurs collègues vérifient par exemple l'identité d'un suspect pris sur le vif. Par ailleurs, une soixantaine d'applications sont en cours de développement. Elles vont faire gagner un temps fou aux policiers, comme accéder aux bases de données et aux fichiers partagés. Cette voiture est louche, hop, l'agent rentre sa plaque dans l'application et voit immédiatement si elle est déclarée volée. Un individu suspecté de violence conjugale, on vérifie en direct s'il a des antécédents et ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement par exemple, le tout sans avoir à appeler le central et patienter de longues minutes. Le gain de temps est considérable. Les policiers pourront même établir leur PV avec ce smartphone. Une petite révolution donc qui est l'un des acquis du Beauvau de la sécurité. Les policiers espèrent maintenant que cet effort salutaire se poursuivra au-delà de l'horizon électoral, car il n'aura échappé à personne que ces smartphones arrivent dans les commissariats à 6 mois de la présidentielle.
Merci beaucoup Julien Rideau sur le pressing et à tout à l'heure Martin pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
On se retrouve dans une quarantaine de minutes.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, bienvenue à vous. Voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Les états généraux de la justice, mission irréaliste selon les magistrats, alors qu'Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi hier à Poitiers. Le président qui dénonce les lenteurs et les lourdeurs de la machine judiciaire. 150 000 fonctionnaires de moins pour plus d'économies, promesse de Valérie Pécresse hier soir. La candidate au Congrès des Républicains pour représenter la droite à la présidentielle était l'invitée de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1. Les économies, c'est ce que tentent de faire les Français face à la flambée des prix à la pompe. Le carburant qui atteint encore de nouveaux records. 1,55€ le litre de diesel, 1,62€ pour le sans-plomb 95.
Il est 5h21 sur Europe 1. Comme chaque matin, à cette heure-ci, on donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Emmanuel Ritz.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes architecte spécialisé dans les terrains montagneux et vous avez conçu, en collaboration avec le Parc national de la Vanoise, en Savoie, un abri de berger héliportable qui s'appelle le Tatou. Expliquez-nous.
C'était aussi un projet qui s'est développé en collaboration avec l'École d'architecture de Lyon. Et d'ailleurs, le mot Tatou est né d'une recherche avec les étudiants que j'ai encadrés, avec d'autres collègues, dans un module qui développe l'environnement et l'innovation. En fait, j'ai deux casquettes. La première d'enseignant, la deuxième d'architecte effectivement spécialisé montagne. Et il y a 4 ans, le gouvernement, à travers le parc de la Vanoise, a proposé à l'école d'architecture d'essayer de développer un prototype d'abri berger nouvelle génération. On a récupéré cette étude au sein de notre enseignement et puis développé un prototype qui essaie d'améliorer les conditions de vie des bergers en montagne.
Alors il ressemble à quoi, ce prototype, ce tatou ?
Alors il ressemble en fait, et c'est son nom le suggère, un emboîtement de volume de plus en plus petit, hein, qui s'enchassent les uns dans les autres, et qui contiennent les différentes parties d'un habitat de montagne, mais qui permettent d'offrir à la fois les fonctions essentielles, vestiaires, modules, WC, douche, cuisine, repas, couchage, et bien sûr du stockage.
L'idée, c'est que tout ça doit rester extrêmement léger pour être transporté par les airs. Je l'ai dit, tout ça est hélitroyé, héliportable, sans pour autant sacrifier le confort des bergers, c'est ça ?
C'était la contrainte, c'est qu'un hélicoptère, ça lève 800 kilos. 800 kilos, si vous voulez, c'est un module de 4 mètres carrés. Vous ne faites pas grand-chose en 4 mètres carrés, à part des abris d'urgence aujourd'hui où les bergers vivent très mal 6 mois dans un seul et même espace. Et il a fallu ne pas toucher le sol, de ne pas avoir fondation, de pouvoir enlever l'abri aussi rapidement qu'on le pose, venir s'implanter dans le terrain rocheux, pentu, sans avoir d'impact sur la nature.
Il y a de l'eau potable et de l'électricité dans cet abri conçu pour les bergers ?
Alors oui, il y a de l'eau potable parce qu'on récupère l'eau de pluie sur le toit qui est canalisée vers un réceptacle en bas d'abri, qu'on peut ensuite potabiliser avec un système de filtre à ultraviolet qui fonctionne avec des panneaux solaires. Et on a une autonomie énergétique grâce à peu près 3 mètres carrés de panneaux solaires qu'on peut disposer en fonction de la meilleure orientation du soleil, puisqu'ils sont libres, et qui donnent de l'électricité, du chauffage, et permettent de faire fonctionner un certain nombre d'équipements au sein de l'abri.
L'objectif, in fine, de ce tatou, de cet abri, c'est de permettre aux bergers de prévenir les attaques de loups, hein, c'est bien cela ?
Exactement. C'est un projet qui s'inscrit pleinement dans le plan loup national, qui est porté par la région Rhône-Alpes, et même par le ministère de l'Agriculture, c'est de favoriser les conditions de vie des bergers pour que les stratégies, notamment d'effarouchement, par une meilleure vigilance, fonctionnent vis-à-vis de la prédation du loup. Le pari est fait qu'un berger qui dort mieux, qui a des conditions de vie et de travail améliorées, est plus présent, et notamment la nuit, lorsque se produisent ce genre d'attaques.
Est-ce que l'abri en soi est à même d'effrayer les loups ?
Alors, sur ce moment, je pense pas, et c'était pas le but, puisqu'effectivement, la forme de l'abri, son architecture, elle est directement liée au processus de montage. Je vous ai expliqué, cette plateforme qui vient sur des pieds, puis ensuite ces petits wagonnets au nombre de 5 qui viennent s'emboîter, effectivement, vous l'avez très bien dit, un petit peu comme les organes d'un tatou. Alors, c'est un peu inédit, ça serait intéressant de savoir comment le loup ressent cette nouvelle cabane. Mais en tout cas, il n'en a pas vu beaucoup pour le moment. Il y en a 4 qui sont aujourd'hui posés dans la région Savoie-Vercors.
J'ai vu que les plans sont mis gratuitement à disposition des collectivités qui souhaitent éventuellement construire ce type d'abri. Ce n'est pas courant ?
Absolument, ça faisait partie de la convention et du deal entre finalement l'école d'architecture qui est un partenaire et qui dispose de la licence et le parc de la Vanoise pour favoriser, donner envie aux collectivités, aux éleveurs, de finalement, à partir des plans qu'on a imaginés et qu'on a dessinés, de consulter des artisans locaux pour construire ces modules et puis travailler avec un tissu, j'allais dire, d'acteurs locaux.
Merci beaucoup Emmanuel Ritz, architecte spécialisé dans les terrains montagneux, de nous avoir présenté le tatou, cet abri héliportable qui permet donc aux bergers de rester au plus près de leur troupeau et ainsi réagir au plus vite en cas d'attaque de loup. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, restez avec nous dans un quart d'heure. Nicolas Caro va nous emmener dans l'espace pour son conseil lecture avec un polar qui se déroule dans la Station Spatiale Internationale. Une histoire de meurtre à 400 km d'altitude. Rassurez-vous, Omblin, votre chouchou Thomas Pesquet va bien. Il n'apparaît d'ailleurs pas dans le roman. Mais juste avant Omblin, on parlera d'une exposition à Versailles. Elle retrace l'histoire de très nombreux animaux qui peuplaient les jardins et les appartements royaux sous l'Ancien Régime.
Un zoo extraordinaire, Julien, composé d'animaux de compagnie, des chiens, des chevaux, mais aussi des pélicans, des autruches, des éléphants. L'exposition Les Animaux du Roi rassemble pour la première fois plus de 300 œuvres représentant cette vaste ménagerie. Et puis on vous raconte aussi des anecdotes comme ce chat Angora lové dans la chaise percée du roi Louis XVI. Il s'est retrouvé en bien mauvaise posture, ce pauvre chat, lorsque sa majesté s'y est installée. Voilà, pour échapper au piège, le chat a donc été contraint d'attaquer le royal séant. Chat et roi ont tous les deux pris la fuite, chacun de leur côté. Voilà. C'est l'une des anecdotes de cette formidable exposition Les Animaux du Roi. On va la visiter dans 10 minutes avec l'un des commissaires de l'exposition.
Très entendu, j'adore cette anecdote. Avant, on passe à la météo avec vous, Anissa Haddadi.
Mais surtout qu'il n'était pas svelte, hein, je crois, Louis XVI, donc le chat, il a dû le sentir passer.
voilà. Une journée chaude et belle.
Oui, allez-y, on part sur la météo, on va y aller. Oui, il va falloir en profiter aujourd'hui. C'est vraiment une parenthèse estivale que nous avons avec un ciel dégagé. Dès ce matin, le soleil est au rendez-vous. On a quelques petits nuages qui traînent quand même ce matin sur le Val de Saône. On a des brouillards le long des frontières du Benelux. Ce sont des nuages qui apportent quelques petites gouttes. Donc prenez vos parapluies dans ces régions. Enfin, ça ne va pas durer longtemps. Entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, on a des entrées maritimes ce matin. Et puis cet après-midi, rien n'a signalé. Le soleil s'impose partout. On a du vent, le vent du sud qui souffle. Alors on le remercie parce que c'est grâce au vent du sud que les températures sont en hausse. Donc dans la vallée du Rhône, sur le Roussillon, sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche, voilà, ça souffle un peu dans ces secteurs. 3 degrés au Puy-en-Velay ce matin, 14 degrés à Paris et Bordeaux, 17 à Cherbourg. Cet après-midi, ça grimpe, 20 à Dijon et Carcassonne, 23 à Paris et Marseille, 24 à Limoges et 28 à Saint-Jean-de-Luz.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est votre journal.
Europe 1.
Le matin plutôt que l'après-midi, notre système immunitaire serait plus performant en début de journée, selon des scientifiques suisses. C'est très sérieux et cela pourrait renforcer l'efficacité de certains traitements. Le marché de la voiture d'occasion ne connaît pas la crise, surtout celui de l'occasion récente. Ces véhicules au faible kilométrage s'arrachent, tandis que le neuf continue de déprimer. Et puis, histoire d'une mystification littéraire, l'auteur de romans policiers à succès, Carmen Mola, n'est pas une femme, mais un homme, ou plutôt trois hommes. Tout le monde n'y a vu que du feu, y compris le jury d'un prestigieux prix littéraire.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce n'est qu'une petite alerte, mais les médecins observent avec attention la courbe des contaminations. Après 2 mois de baisse, le nombre de cas positifs repart à la hausse. Rien à voir avec les vagues précédentes, mais le taux d'incidence est passé de 43 pour 100 000 habitants à 48 la semaine dernière, toujours sous le seuil d'alerte. Certes, les autorités comptent plus que jamais sur la vaccination pour empêcher une nouvelle flambée épidémique. Et sur ce terrain, les nouvelles sont assez décevantes. La campagne pour la troisième dose, notamment, patine. Moins de 2 millions de Français sur les 18 millions qui peuvent y prétendre ont reçu leur rappel.
Et à propos de la vaccination, des chercheurs de l'Université de Genève nous apprennent qu'il vaut mieux se faire vacciner le matin plutôt que le soir.
Oui, cela reste une étude pour l'instant, mais selon ces universitaires suisses, notre système immunitaire serait plus réceptif et donc plus réactif en début de journée. Explication Afsané Saboui.
Si vous avez le choix de l'horaire pour votre troisième dose de vaccin Covid ou pour une injection contre la grippe, soyez les plus matinaux possibles. Car comme l'explique Christophe Scheiermann, immunologue à l'Université de Genève, c'est le moment où le système immunitaire est le plus efficace.
Il y a une meilleure réponse le matin que l'après-midi. Le titre des anticorps sont 2 fois plus élevés le matin qu'il l'après-midi.
Ce que vient de découvrir l'équipe de Christophe Scheiermann, c'est que les cellules sentinelles du système immunitaire, celles qui donnent l'alarme quand notre corps est attaqué par un microbe, ces cellules sont beaucoup plus réactives et mobiles tôt le matin lorsque le corps est reposé. En fait, cette fonction du système immunitaire est rythmée par notre horloge biologique interne, une horloge qui est très sensible à l'apparition de la lumière du jour. Donc mieux prendre en compte ce rythme naturel de nos défenses immunitaires permettrait à la fois d'optimiser l'efficacité des vaccins, mais aussi d'autres médicaments qui interagissent avec notre système immunitaire, par exemple les immunothérapies contre certains cancers ou le traitement des maladies auto-immunes.
La pandémie qui a servi de prétexte à museler l'information et la liberté d'expression, c'est le constat dressé par Amnesty International qui cite plusieurs États comme la Chine. L'Organisation des droits de l'homme estime que le manque d'informations fiables sur le virus et les vaccins a pu contribuer à l'aggravation du bilan de la pandémie qui approche les 5 millions de morts dans le monde.
Il y a les conséquences sanitaires, il y a aussi les conséquences économiques. La pénurie de semi-conducteurs fait flamber le marché de la voiture d'occasion.
Et oui, c'est notamment la conséquence de la désorganisation des circuits de distribution et de la politique de flux tendu des constructeurs. Renault, par exemple, a dû mettre à l'arrêt 2 usines en France, Sandouville et Batilly. Ailleurs, les délais de livraison s'allongent. Certaines options, comme le toit ouvrant, par exemple, ne sont même plus disponibles. Et ça se traduit par des chiffres de vente en chute libre, moins 20%. Les clients se ruent donc sur l'occasion, et pas n'importe lesquelles, celles que l'on appelle les occasions récentes. Aurélien Fleureau.
En France, il se vend désormais 3 voitures d'occasion pour une neuve. C'est un ratio record, une tendance de fond, mais qui est accentuée par la pénurie actuelle, avec souvent des délais de réception du véhicule neuf pas avant le printemps 2022. Les spécialistes de l'occasion ont vu arriver de nouveaux clients, aussi bien des cadres urbains que des retraités, a constaté Alexandre Marin, vice-président du groupe Auto1, qui a lancé le site AutoHero il y a un an en France.
Les gens se reportent vers les modèles les plus récents disponibles et ça se ressent dans le prix. Mais n'hésite pas à prendre également du vrai véhicule occasion, hein, du 3 ans, 5 ans, 6 ans.
Même constat chez Aramis Auto, avec là aussi un fort attrait pour la voiture remise à neuf, comme le constate Romain Baucher, son directeur général pour la France.
Les clients qui viennent nous voir aujourd'hui, ils se tournent vers nous parce qu'on a une offre alternative qui est parfaite pour eux, qui sont les véhicules d'occasion reconditionnés. Ce sont des véhicules récents, peu kilométrés, qui sont du coup équipés technologiquement comme les véhicules neufs qui sortent aujourd'hui des usines.
Conséquence, les automobilistes dépensent moins que prévu ou alors montent en gamme pour ceux qui peuvent se le permettre, notamment ceux qui veulent se tourner vers des modèles hybrides ou électriques.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les prix de l'énergie et notamment le carburant continuent leur ascension à 1,65€ en moyenne le litre. Sans plomb 95 n'est plus qu'à 1 de son record datant de 2012. Le gazole a atteint, lui, les sommets, compté 1,55€ en moyenne.
Les Français qui ont bien du mal à joindre les deux bouts, 1 sur 2 et même à découvert au moins une fois par an.
232€, c'est le montant moyen du découvert selon l'étude du comparateur en ligne Panorabank. Les familles monoparentales, les couples avec enfants qui sont le plus touchés, surtout si leurs revenus sont inférieurs à 1 500€ net. A contrario, les célibataires et les cadres au-delà de 2 500€ net sont nettement plus à l'abri. Aux États-Unis, l'administration Biden met sa menace à exécution et elle demande à la Cour suprême de bloquer la loi sur l'avortement votée au Texas, loi très restrictive puisqu'elle interdit l'IVG après 6 semaines de grossesse. L'Équateur décrète l'état d'exception pour lutter contre la vague de violence qui secoue le pays. Le trafic de drogue et la guerre que se mènent les cartels rivaux obligent le pouvoir à mobiliser l'armée.
On en vient à cette histoire digne d'un roman policier en Espagne, celle de cette mystification littéraire révélée au grand jour à l'occasion de la remise d'un prix littéraire.
Le prix en question s'appelle Planeta, il fait autorité en Espagne puisque la super jury a été dévoilé là-bas. Le jury pensait récompenser Carmen Mola, femme auteure de romans policiers à succès. Sauf que Carmen Mola n'a jamais été une femme. 3 hommes se cachaient derrière ce nom d'emprunt. Nicolas Caro.
Carmen Mola en Espagne, c'était un peu comme Elena Ferrante en Italie. Personne ne savait vraiment qui elle était. Les seules informations dont on disposait sur cet auteur de 3 polars à succès, c'est qu'il s'agissait d'une prof de maths née en 1973. Mais surprise, son nouveau roman Bestia est récompensé par le prix Planeta. À la clé, 1 million d'euros. À l'appel de son nom, 3 hommes montent sur scène. C'était une supercherie. Ils ont inventé de toutes pièces ce personnage de romancière et écrivaient en fait les livres à 6 mains. C'est bien joué, mais certains journalistes, un peu vexés sans doute, dénoncent une fake news comme Xavi Ayen, journaliste littéraire à la Vanguardia.
Je ne trouve pas éthique d'avoir concédé beaucoup d'interviews par email en se faisant passer pour une femme, disant qu'elle est mariée, qu'elle a 3 enfants, qu'elle avait été professeure. C'est une fake news que la maison d'édition a lancé sur la place publique.
N'empêche, c'est un beau coup. Les 3 amis, sous le nom donc de Carmen Mola, ont été sélectionnés parmi 654 écrivains.
Nicolas Caro, allez, un mot de football avec la 3e journée de la Ligue des Champions. Le PSG sans Neymar, mais avec Messi et Mbappé, reçoit le RB Leipzig à 21h ce soir.
C'est noté, merci beaucoup Christophe Lamar. On passe aux courses avec Thierry Léger et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 2100 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet et parmi les 16 partants, il est impératif de retenir les chevaux s'élançant en première ligne derrière l'autostart, le mode de départ de cette course au trot attelé avec les numéros 4 Dick de Marlboro qui après 2 courses de rentrée des plus prometteuses va se présenter cet après-midi à son meilleur niveau en vue de cet objectif. 2 Philly Eleven, irréprochable depuis de nombreux mois. 6 Cimarron qui excelle sur ce type de tracé de vitesse et 7 Express du Gers, au mieux lui aussi, est capable d'adopter toutes les tactiques. Derrière ces 4-là, je vous recommande Esteban Giel, le numéro 15, dont la dernière fin de course le 2 octobre à Amiens n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin les numéros 1 Dream Along, 10 Rocky T et 3 Erasme Williams compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 2, 6, 7, 15, As, 10 et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h38, vous restez avec nous. Nous partons visiter l'exposition Les Animaux du Roi à Versailles.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40, bon réveil à vous et rendez-vous à Versailles pour l'exposition baptisée Les Animaux du Roi, où vous pouvez découvrir depuis une semaine l'incroyable ménagerie qui peuplait le château et les jardins. Des chiens, des oiseaux, mais aussi des singes ou des éléphants. Ils sont représentés sur des tapisseries, des peintures à l'aide de sculptures. Certains animaux sont même naturalisés, empaillés. Visite guidée avec l'un des commissaires de l'exposition.
Bonjour Nicolas Milovanovitch.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre. L'exposition Les Animaux du Roi met à l'honneur pour la première fois la ménagerie de Versailles, construite sous le règne de Louis XIV. Près de 300 œuvres sont rassemblées et témoignent de l'omniprésence de l'animal au château de Versailles sous l'Ancien Régime. Alors on se rend compte que les animaux, qu'ils soient de compagnie ou sauvages, ne sont plus relégués à la petite histoire, mais à la grande histoire de France. C'était votre volonté ?
Oui, absolument. Les animaux sont un peu les oubliés de l'histoire de Versailles. Il n'y a jamais eu d'exposition dédiée aux animaux jusqu'à présent, donc c'est la première. Et c'est très important car les animaux étaient partout à Versailles. Il faut imaginer, aujourd'hui c'est difficile, mais au XVIIe et XVIIIe siècle, Versailles grouillant d'animaux dans les appartements, mais aussi dans les jardins et donc à la ménagerie.
Ils avaient une place très particulière au sein de la famille royale et au-delà dans la société française sous l'Ancien Régime ?
Oui, alors là, c'est difficile car en fait, le 17e, c'est le moment où le cartésianisme s'affirme et vous savez, Descartes considérait que les animaux étaient des machines, la fameuse théorie des animaux-machines, en tout cas cette image des animaux en tant que rouages d'horlogerie. Donc c'est pas forcément une époque faste pour les animaux, mais il y a une évolution des sensibilités entre le 17e et le 18e et Versailles, évidemment, est au cœur de cela.
Alors on imagine aisément le cheval comme animal choyé par la noblesse de l'Ancien Régime et par la famille royale. On apprend au fil de l'exposition que les rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, avaient également une faiblesse pour des animaux peut-être moins attendus, dirons-nous.
Louis XIV voulait qu'il y ait des animaux venus des quatre coins du monde. Donc on avait des animaux exotiques, par exemple une éléphante, mais il y avait aussi des casoars, il y avait des flamants roses, il y avait des autruches, des dromadaires. Donc c'est vraiment une sorte de reflet de la faune terrestre que Louis XIV voulait rassembler à la ménagerie.
Des animaux exotiques, puis des animaux de compagnie. Chacun avait sa préférence. Louis XV avait une tendresse pour les chats en particulier.
Oui, alors ça c'est très juste. Louis XIV en fait n'aimait pas les chats, ni les petits chiens d'ailleurs. Et donc les chats du coup étaient pas encore à Versailles. Et c'est sous Louis XV, donc au XVIIIe siècle, que le roi aimant les chats et la reine également, les chats investissent Versailles.
Et ils avaient aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, ils étaient aussi considérés, alors je pense aux chats en particulier général, mais aussi considérés que n'importe quelle autre personnalité de la cour, ils possédaient leur portrait.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est une vogue qui a été établie par Louis XIV, du XVIIe siècle, de faire des portraits officiels des chiens, puis des chats du roi. Donc, il faut imaginer le portrait présidentiel. Aujourd'hui, à l'époque, on prenait tannes, florissants, mythes, folles, et puis on les faisait poser. Et ensuite, c'est des tableaux qui sont des chefs-d'œuvre par François Desportes, par Jean-Baptiste Oudry, avec le nom de l'animal inscrit en lettres d'or pour qu'on l'identifie bien. Et c'est des tableaux, par exemple, que Louis XIV, certains d'entre eux, ses préférés, il les présentait dans ses petits appartements au milieu des chefs-d'œuvre de la collection royale. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est la Joconde. Donc, à côté de la Joconde, vous aviez florissant chien de Louis XIV.
Les animaux exotiques, on les a évoqués un petit peu plus tôt. Ils ne servaient pas seulement d'attraction. La démarche était aussi scientifique, naturaliste.
Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après leur mort, les animaux étaient disséqués pour servir à la gloire scientifique, cette fois, du roi. C'est-à-dire qu'on les disséquait et on publiait des planches gravées et l'étude, on va dire, d'anatomie comparée. Et c'est effectivement une manière de renouer avec l'histoire naturelle antique, avec l'histoire des animaux d'Aristote. Et ça participait aussi à la gloire du roi.
Donc vous l'évoquiez tout à l'heure, ces animaux avaient une place très particulière. Des animaux machines qui n'étaient pas justement des animaux machines, il existait une prise en compte, voire un respect de la sensibilité de l'animal.
Tout à fait. Donc il y a effectivement les prémices, si vous voulez, la préhistoire de la défense de la cause animale et d'une meilleure vision de l'animal avec des personnages marquants de la cour. Il y a les souverains, on l'a dit, il y a la princesse Palatine qui était l'épouse de monsieur, frère de Louis XIV, qui était vraiment une ardente défenseur des animaux. Et puis, il y a des figures comme Paradis de Moncrieff qui a écrit la première histoire des chats, vous voyez, le début de l'histoire culturelle des animaux, et qui était le lecteur de Marie-Léna Niska. Et puis encore Charles-Georges Leroy qui était garde des chasses de Louis XVI et qui, lui, étudiait les animaux dans leur milieu naturel, en tant en garde des chasses, il les voyait évoluer, employer des ruses pour échapper aux chasseurs. Et donc, il a compris que Descartes s'était trompé du tout au tout et qu'il y a bien une intelligence animale. Donc, ces figures versaillaises ont été précurseurs dans l'étude et la défense de l'animal.
Merci Nicolas Milovanovic. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre et l'un des commissaires de l'exposition Les animaux du roi présentée au château de Versailles jusqu'au 13 février prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
À 5h46, on en vient à la prescription culture et le mardi, nous sommes avec Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors ce matin Nicolas, ce n'est pas un roman de la rentrée littéraire que vous nous proposez, mais un polar, un vrai.
Mais un polar un peu particulier quand même, vous allez voir. Ça s'appelle Aliéné, signé Fabrice Papillon chez Plomb. Nous sommes en mai 2022, au début du roman, à 400 km de la Terre, dans l'espace donc, dans la Station Spatiale Internationale en fait. Il y a donc des astronautes de différentes nationalités, américains, russes, anglais, italiens. Bon, ils font leur travail à bord. Ils n'en sont plus à la fascination des premiers jours. Il y a une certaine routine qui s'est installée. Ils essayent de vivre ensemble malgré les différences de personnalité. Il y a notamment Bob Jenkins, un américain un peu taciturne, un peu solitaire. Pas le joyeux drill, quoi. D'ailleurs, il s'entend assez mal avec les Russes. Et il dort dans le labo. Un matin, on retrouve Jenkins mort. Il flotte dans l'impesanteur. Et pardon pour les détails si vous êtes au petit-déj, mais ses viscères flottent dans le labo.
C'est charmant. Il a été tué ?
Ah ça, on a tout l'air en tout cas. On appelle Houston, bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune procédure prévue dans un cas pareil dans la station spatiale. Fabrice Papillon en est à son troisième roman, toujours très documenté. Et il est aussi journaliste scientifique. Fabrice Papillon.
J'ai effectivement beaucoup enquêté, j'ai dû interroger des astronautes, un directeur juridique de l'Agence spatiale européenne, différents spécialistes du droit de l'espace pour essayer de reconstituer qu'est-ce qui se passerait en cas de meurtre à bord de l'ISS. Eh bien, c'est extrêmement complexe. Si ça devait arriver, tous mes interlocuteurs m'ont dit qu'ils seraient vraiment dans une énorme difficulté. Il n'y a pas de procédure vraiment instituée. Ils ont quelques idées. Par exemple, si un crime ou un délit, c'est pas forcément un meurtre, mais un délit a lieu à bord de l'ISS, alors l'enquête va tomber dans les mains du pays propriétaire, parce que chaque module est immatriculé dans un pays ou un autre. Donc s'il y a un délit à bord de Columbus, qui est un labo de recherche européen, alors c'est l'Europe qui mène l'enquête.
Bon alors comment fait-on, Nicolas ? En tout cas, les suspects ne sont pas loin.
Ça, c'est le bon côté. C'est un Agatha Christie chimiquement pur, si vous voulez. A priori, aucun assassin n'a pu se glisser par la fenêtre. Mais ça se complique tout en bas. Tout en bas.
Sur Terre, donc. C'est ce que vous dites.
Mieux, sous terre, 30 mètres sous terre exactement, dans les arêtes de poissons de Lyon. Un autre meurtre y a été commis, encore un Américain, mais un biologiste cette fois. Et au passage, moi, j'ai appris ce qu'étaient les arêtes de poissons à Lyon. Fabrice Papillon.
Les arêtes de poissons, c'est un système de galeries souterraines dans les entrailles de la colline de la Croix-Rousse à Lyon. La Croix-Rousse, c'est un des lieux les plus connus de Lyon. Et bien, dans le ventre de cette colline, il y a un réseau qui ressemble à des arêtes de poissons, parce qu'il y a une grande arête centrale et des petites arêtes perpendiculaires qui sont branchées dessus. Un édifice parfait, parfaitement géométrique, avec des croisements hyper perpendiculaires, une pente parfaite, et qui a plus de 2000 ans. Et les experts le disent, on ne sait pas comment on a été capable de faire un édifice aussi parfait il y a 2000 ans, alors qu'on n'avait pas les outils, les moyens techniques de le faire. Ça reste un mystère scientifique, un mystère archéologique.
Alors d'accord, mais quel est le rapport entre un meurtre dans l'espace et un autre dans un souterrain ? J'imagine que les deux histoires vont se rejoindre, Nicolas.
Élémentaire, mon cher Watson, effectivement, mais je ne vous dis pas comment, vous avez 500 pages pour découvrir. Au passage, on court dans tous les sens, Fabrice Papillon nous tend des jolis pièges, des fausses pistes. Tiens, par exemple, avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas d'accent sur le premier E de Aliéné dans le titre ? Eh bien, c'est un indice peut-être. C'est une enquête, mais dans tous les sens du terme, une enquête policière, bien sûr, avec Louise Vernet, commandant de la brigade criminelle. Enquête économique aussi, les GAFA jouent peut-être un rôle dans tout ça. Et enquête scientifique avec éventuellement un détour vers des phénomènes extraterrestre, mais c'est pas de la science-fiction et à la fin, tout est rationnel. Allez, je vous en dis pas plus, sinon je vais me trahir.
Alien né donc chez Plomb et c'est signé Fabrice Papillon. Merci beaucoup Nicolas Caro.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Trop de lourdeur et de lenteur, c'est avec ces termes qu'Emmanuel Macron a lancé hier à Poitiers les états généraux de la justice. Mission irréaliste, dénoncent les magistrats. Nouveau record des prix à la pompe, 1,55€ le litre de diesel, 1,62€ pour du sans-plomb 95. Le gouvernement pourrait annoncer dans les prochains jours un chèque carburant, option privilégiée, nous confiait hier matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur Europe 1. Et puis la taxe foncière trop chère, dénonce ce matin l'Union nationale des propriétaires immobiliers dans Le Parisien. En 10 ans, elle a augmenté de près de 28% et représente un coût moyen de 2,3 mois de loyer.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, eh bien Julien, nous sommes du côté de Troyes.
Bonjour Bruno Dumortier.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de L'Est éclair, où l'on découvre ce matin un article sur la culture du peuplier qui est en plein renouveau dans l'Aube.
En plein renouveau, effectivement. Le peuplier, il faut savoir, c'est un arbre magique. Il pousse en 15 ans, il pousse dans des zones humides qui sont impropres à la culture, ou alors des cultures très difficiles. On essaie de faire du maïs de temps en temps pour le remplacer. Il permet d'assécher ces zones-là. En 15 ans, vous récoltez du bois, vous pouvez en faire du contreplaqué, des cagettes. Ça se déroule comme un rouleau de tapisserie, hein. Vous le mettez sur une machine, hop, 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 vous récupérez les feuilles de peuplier, ensuite vous les collez, ça fait du contreplaqué. Il y a des spécialistes en Italie et en Espagne surtout, en France aussi, en Vendée. Et aujourd'hui, il y a le groupe espagnol Guernica qui a ouvert une grande usine à Troyes, qui va ouvrir au printemps. Et du coup, la culture du peuplier est en train de reprendre partout. On est en train de replanter du peuplier et ce n'est pas si facile que ça.
Oui, parce que le problème, c'est que les forêts sont morcelées et gérées par plein d'acteurs différents. Du coup, on ne plante pas assez. Alors que la demande en boîte de peupliers est bien là.
La demande est là, est formidablement là. Et le problème, c'est effectivement le problème de toute la forêt française. Les parcelles sont morcelées, trop petites. Or, si vous voulez avoir une exploitation de peupliers qui fonctionne, il faut avoir des grandes parcelles dans lesquelles vous pouvez entrer avec des machines, dans lesquelles vous pouvez travailler proprement, dans lesquelles vous plantez beaucoup d'arbres à la fois, vous les récoltez aussi en même temps, donc ça va très très vite, vous pouvez industrialiser la production. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on est en train de lancer ici, là, dans l'Aube et dans la Marne, dans le département juste à côté, la vallée de la Seine, la vallée de la Marne, qui sont particulièrement propices à la culture du peuplier. Il y a un grand effort de remembrement pour avoir des parcelles qui soient de bonne taille. Alors la difficulté, évidemment, comme tout remembrement, c'est d'évaluer les parcelles existantes, de ne pas flouer les propriétaires, que tout le monde y retrouve son compte. Et là commencent les grandes difficultés.
Pour revenir à cette usine qui est en cours de construction à Troyes, j'ai lu dans votre article, c'est un investissement colossal, hein, 80 millions d'euros pour transformer plus de 250 000 mètres cubes de bois de peuplier par an. C'est considérable.
C'est considérable, c'est une super nouvelle pour le territoire. C'est le groupe espagnol qui est basé à Logroño en Espagne qui va ouvrir cette usine. Ça sera 300 emplois à la clé sur le bassin de Troyes et surtout des centaines d'emplois partout dans la forêt, sur les bords de rivière, là où il y aura les peupleraies, parce que le peuplier, il faut le planter, il faut l'élaguer, il faut ensuite l'abattre, le récolter et l'amener à l'usine pour qu'il soit là déroulé et ensuite transformé en plaque de contreplaqué à la fin du processus. Et
donc, oui, parce que l'idée, ce n'est pas d'amener des peupliers qui ont été plantés à des milliers de kilomètres de là, c'est de prendre ceux qui sont juste à côté de l'usine.
C'est ça, c'est l'objectif de l'usine, parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, on a 35 camions par jour qui partent avec des peupliers tout bêtes, juste coupés en grumes comme ça, qui traversent les Alpes pour aller se faire dérouler là-bas. Et donc là, on va quand même aller dans un processus qui sera beaucoup plus vertueux, puisqu'ils seront déroulés ici, transformés ici, et ensuite, les plaques de contreplaqué finies seront expédiées, qui évitera quand même une consommation de route et une production de CO2 parfaitement inutile.
Et une création de valeur ajoutée, évidemment, pour la région auboise. Merci beaucoup, Bruno Dumortier, de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans L'Est éclair. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h56 et au programme de la prochaine demi-heure, Julien, une grande campagne de sensibilisation au handicap.
Elle a été lancée hier, vous l'avez peut-être déjà remarqué, 3 clips vidéo et 10 portraits avec l'objectif affiché de changer le regard des Français sur le handicap. Et il y a urgence, c'est en effet la première cause de discrimination dans notre pays, très en retard, il faut bien le dire, sur ce sujet qui concerne 12 millions d'entre nous. Une personne sur 5 confrontée au quotidien au regard désobligeant, au jugement blessant, on va en parler dans une dizaine de minutes avec notre invitée Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
C'était il y a 44 ans, le dernier concert avant le vol maudit de Lynyrd Skynyrd. « La légende du rock sudiste, alors en pleine gloire, stoppée net par une tragédie. Le récit dans 20 minutes. À suivre, la météo et le journal.
Il est 6h. $150 000 fonctionnaires en moins pendant son quinquennat, la proposition choc de Valérie Pécresse pour se démarquer des autres candidats de la droite et faire des économies, 45 milliards d'euros dans la poche de l'État pour se recentrer sur la sécurité. L'Église ne changera pas de dogme sur le secret de la confession, conclusion de Jean Castex à la sortie d'une audience avec le pape François hier. Une rencontre 2 semaines après la publication du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église catholique de France. Et puis il n'avait aucune autorisation pour transporter Emiliano Sala. 3 ans après la disparition du footballeur, le pilote qui a organisé le vol plaide coupable. Il est jugé depuis hier à Cardiff, au Pays de Galles.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Un café, un croissant et un sourire. Le menu des candidats Les Républicains réunis ce matin pour un petit déjeuner au siège du parti. Une photo de famille à l'initiative du patron de la droite, Christian Jacob. Moins de 2 mois avant le congrès qui doit désigner leur champion. Et parmi les 6 prétendants, Valérie Pécresse.
La présidente de la région Île-de-France qui était l'invitée hier soir de Punchline sur Europe 1. Un entretien où elle s'est engagée à supprimer 150 000 fonctionnaires en cas de victoire à l'élection présidentielle. Louis Dragnel, avec cette promesse, la candidate veut avant tout marquer sa différence.
Oui, avec sa proposition, Valérie Pécresse veut vraiment se démarquer des autres candidats de la droite. 150 000 fonctionnaires en moins pendant le quinquennat, aucun autre prétendant ne le propose. En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, François Fillon, lorsqu'il était candidat à la dernière présidentielle, avait été jusqu'à s'engager à supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. D'ailleurs, Valérie Pécresse sera dans la Sarthe demain soir, précisément sur les terres de François Fillon, dont elle a longtemps été proche. Ce qui est intéressant, quand on regarde de près ce que dit la candidate de la droite, elle veut cibler ce qu'elle appelle l'administration administrante. En clair, la bureaucratie. Un pari aussi risqué qu'audacieux, alors que le « quoi qu'il en coûte » a été salué par presque tous les groupes politiques. Mais elle le dit, elle veut vraiment faire des économies, 45 milliards accompagnés de 15 milliards d'euros de privatisation pour permettre à l'État de se recentrer sur la sécurité, la santé et l'éducation. Elle le sait, les marges de manœuvre pour faire des économies ne sont pas immenses. Avec cette proposition, Valérie Pécresse assume donc un choix tranché.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
5 milliards d'euros dès l'année prochaine, c'est la facture du bouclier tarifaire pour atténuer la hausse des prix de l'énergie, notamment de l'électricité. Et à 6 mois du scrutin, Emmanuel Macron place le nucléaire au cœur de la présidentielle. Le chef de l'État devrait annoncer la construction de 6 nouveaux EPR avant Noël. Information confirmée par le patron d'EDF, invité de La France Bouge hier sur Europe 1.
Être un élu catalan peut avoir des avantages, surtout en matière de diplomatie. C'est en espagnol que Jean Castex a échangé avec le pape François hier, une audience privée au Vatican d'une 30aine de minutes.
Et un sujet central, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique française. Jacques Serret, vous avez suivi cette rencontre au Vatican où la conversation entre les deux hommes s'est concentrée autour du secret de la confession.
Oui, le Premier ministre a clairement exprimé sa position face au souverain pontife. Il faut à tout prix trouver les voies et les moyens pour concilier le secret de la confession avec le droit pénal, le droit des victimes, lui a-t-il dit. Message qu'il a renouvelé quelques heures plus tard lors d'un discours pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican.
C'est l'Église de France qui a commandé ce rapport. Il lui appartient maintenant de trouver les réponses nécessaires et la séparation de l'Église et de l'État, chacun le sait, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi.
Alors d'après la réponse du pape lors de l'audience privée, Jean Castex a compris que l'Église ne reviendrait pas sur ce dogme du secret de la confession, mais selon le Premier ministre, François s'est tout de même montré soucieux sur cette question. Alors est-ce là un coup de pression du locataire de Matignon? Jean Castex s'en défend, lui qui par ailleurs qualifie cette rencontre avec l'évêque de Rome de remarquable.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Au premier jour de son procès en appel, le gendre d'Hélène Pastor crie au complot.
L'homme a été condamné à la perpétuité en première instance, une peine pour avoir commandité l'assassinat de la milliardaire monégasque et de son chauffeur en 2014. Et si l'ex-gendre a clamé son innocence hier, cette première journée d'audience a été marquée par le silence glacial entre le fils et la fille de la milliardaire qui est aussi l'ex-compagne de l'accusé, Stéphane Burgat.
Sans un regard sur le banc des parties civiles, les deux enfants d'Hélène Pastor s'évitent
Gérard Baudou, l'avocat de Gildo Pastor, confirme les soupçons que nourrit son client vis-à-vis de sa sœur.
Soupçon, comme vous l'indiquez, le mot est certainement un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a des interrogations. Et ce que Gildo Pastor Palanca attend de ce procès, c'est que toute la vérité soit faite. Mais c'est vrai que, pour autant, la proximité qui existait entre Janowski et sa sœur peut interroger.
Et même si elle n'est pas sur le banc des accusés, son nom devrait revenir dans ce procès. Sylvia Pastor, l'ex-compagne de Wojciech Janowski, le commanditaire présumé auquel on attribue un mobile financier. Hypothèse balayée par son avocat Maître Campana qui entend prouver que la mort d'Hélène Pastor ne lui aurait bénéficié en rien. Pour rappel, Sylvia Pastor avait été interrogée à l'époque sous le régime de la garde à vue mais sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Aix-en-Provence, Stéphane Burgat, Europe 1.
Sa disparition avait ému le monde du football et même au-delà. Il y a presque 3 ans, Emiliano Sala, footballeur argentin, attaquant des Canaries nantais, disparaissait dans le crash d'un petit avion privé.
Un voyage au départ de Nantes pour rejoindre Cardiff, son nouveau club. Et c'est dans la capitale galloise qu'est jugé depuis hier l'homme qui avait organisé ce vol. Cyril de la Morinerie, dès les premières minutes, le footballeur avait d'ailleurs eu un mauvais pressentiment.
Oui, le 21 janvier 2019, Emiliano Sala, inquiet, envoie un message à ses proches. « Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux ». Le Piper Malibu s'écrase ensuite dans la Manche à 40 km de l'île de Guernsey. Le bureau d'enquête britannique conclut que le petit monomoteur a commencé à se désintégrer avant le crash en raison d'une vitesse excessive. Aujourd'hui, les regards se tournent donc vers le propriétaire de l'avion, David Anderson, un homme de 66 ans. L'avion n'était pas homologué pour assurer des vols commerciaux. David Anderson devait assurer la liaison avant de se désister pour des raisons familiales. Or, le pilote qu'il a choisi pour le remplacer n'était pas qualifié pour voler de nuit. David Anderson a plaidé coupable d'avoir transporté Emiliano Sala sans autorisation lors de sa précédente comparution. L'homme originaire du nord de l'Angleterre, resté très discret depuis ce drame, va être sommé de s'expliquer. Les jurés ont dû attester de ne pas être supporters de Cardiff. Le procès doit durer 2 semaines.
Le récit de Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange, c'est mardi, donc c'est Ligue des Champions avec un choc ce soir.
Oui, le PSG reçoit Leipzig, le remake de la demi-finale de 2020. Paris s'était imposé 3-0, des Parisiens leaders de leur groupe depuis leur victoire contre Manchester City il y a 3 semaines, mais qui devront faire sans Neymar ce soir. Face à eux, Leipzig s'appuiera sur une vieille connaissance, un titi parisien, un joueur formé au camp des loges, Christopher Nkunku, en forme internationale depuis le début de saison. Il a inscrit 8 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Son ancien partenaire, Presnel Kimpembe, ne tarit pas d'éloges à son sujet.
Il est énorme. Christopher, on a été formés ensemble. C'est un garçon qui a évolué énormément, même si on connaissait déjà son potentiel. Il arrive à montrer que voilà, il fait partie aussi des grands maintenant, qu'il arrive à se montrer sur la scène européenne. Je suis pressé de pouvoir le retrouver et j'espère qu'il fera aussi ses débuts en équipe de France quand il en aura l'opportunité.
Paris-Leipzig, c'est à 21h ce soir. Dans l'autre match du groupe, City se déplace à Bruges. Et puis une affiche à ne pas manquer ce soir, un alléchant Atlético Madrid-Liverpool, n'est-ce pas Julien?
Ah oui, justement.
Du rugby, Martin, une liste très attendue.
Oui, Fabien Galthié a dévoilé hier le nom des 42 joueurs qui vont préparer la tournée de novembre. Le capitaine Charles Olivon est blessé. Les stars Dupont, Ntamack et Vakatawa sont là, sans oublier 9 petits nouveaux. Parmi eux, les Toulousains Flamand et Lebel ou encore le Racingman Taofi Fenua. Premier match le 6 novembre contre l'Argentine.
Et on termine avec du basket.
Oui, avec la reprise de la NBA ce soir et deux immenses chocs pour commencer. Les tenants du titre, les Milwaukee Bucks, affrontent les Nets et leur Dream Team mené par James Harden et Kevin Durant. Un peu plus tard, c'est une autre Dream Team, les Los Angeles Lakers de LeBron James et Russell Westbrook qui reçoivent les Golden State Warriors de Steph Curry. Début en grande pompe donc.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h08 sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées sera avec nous. Sophie Cluzel va nous présenter la campagne de sensibilisation au handicap lancée hier. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. Vous l'avez peut-être remarqué dans vos journaux ou à la télévision, une grande campagne de sensibilisation sur le handicap a été lancée hier. On en parle, Julien, avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Quel est le message derrière cette campagne? Quelle est son ambition?
Alors c'est une ambition pour changer les préjugés. Je vous rappelle que le handicap est la première cause de discrimination, notamment à l'embauche, mais pas que. Et donc faire tomber les préjugés et surtout aller chercher la rencontre avec les personnes en situation de handicap. La thématique de la campagne, c'est « Voyons les personnes avant le handicap », avec une très belle campagne pendant 4 mois qui va nous permettre de changer le regard avec des films, des portraits, une capacité d'écouter aussi la parole des personnes, changer le regard, aller chercher la rencontre, tout simplement voir les personnes avant le handicap.
Vous l'avez dit, le handicap est la première cause de discrimination en France, selon le Défenseur des droits. Est-ce qu'au regard de cette statistique effrayante, cette campagne est suffisamment percutante ? Parce que là, on n'a que des messages positifs, hein, que ce soit les clips ou les portraits. On est quand même assez loin du quotidien vécu par les 12 millions de Français en situation de handicap.
Alors, 12 millions de Français, 80% de handicap invisible, une trajectoire qui est en train de changer depuis 4 ans, puisque nous avons replacé les personnes comme citoyens avant tout. Ça avance, on veut que ça avance plus vite. Et donc, ce n'est pas un message ni compassionnel, ni empathique, ni misérabiliste. C'est un message qui veut faire comprendre aux Français que les personnes handicapées sont au milieu de nous, déjà. Et il faut tout simplement les regarder différemment, que ce soit à l'école, dans l'emploi, dans le logement, dans la cité. Regardons les personnes, osons cette rencontre qui fait peur parfois. Mais je rappelle encore que 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est aussi une campagne qui va faire de la pédagogie sur les différents types de handicap grâce aux portraits que nous avons, qui déclinent un peu toutes les situations de handicap, qui circulera dans les territoires, dans les écoles, qui sera à disposition des associations pour ouvrir le débat. Donc c'est 4 mois en même temps d'interpellation et aussi de discussion avec les Français.
Pourquoi a-t-il fallu attendre 15 ans pour qu'une campagne de sensibilisation comme celle-ci voie le jour ? C'est une éternité, 15 ans.
Ben oui, mais nous l'avons engagé très vite. C'est un engagement du président de la République dès le 11 février 2020, lors de la conférence du handicap. Bon, il y a eu une crise sanitaire qui nous a rattrapés, donc il nous a obligé de décaler l'entrée de cette campagne. Mais c'était un engagement.
Le président
qui avait
a été élu
pris
en 2017, je le rappelle.
Oui, tout à fait. Ça a été grande cause priorité du quinquennat, le handicap. Nous n'avons pas tardé. Nous avons fait 5 comités interministériels du handicap. Nous avons bâti cette campagne avec les personnes. Nous avons changé beaucoup de choses, le droit de vote, les droits à vie. Nous accélérons justement les réponses pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes justement attaqués à ces préjugés pour changer tout simplement la façon dont nous regardons les personnes comme des personnes avant tout et non pas comme un handicap avéré qui empêche cette rencontre.
Rien à voir donc avec la présidentielle qui arrive, c'est dans 6 mois.
Bien sûr que non, qu'il n'y a rien à voir, puisque c'était déjà cranté depuis plus de 2 ans. Donc nous y travaillons depuis 2 ans, et entre-temps, ben malheureusement, il y a eu une crise sanitaire, où justement les personnes handicapées ont été l'objet de toute notre attention, pour justement qu'elles ne pâtissent pas de cette crise, tout en bâtissant ce message important de dire « oui, les personnes handicapées sont déjà parmi nous, nous devons y faire beaucoup plus attention et aller chercher la personnalité avant justement de s'arrêter au handicap ».
Que répondez-vous à ces personnes handicapées qui disent qu'on aurait mieux fait de mettre cet argent dans l'accessibilité que dans des films pour sensibiliser ? C'est l'opinion par exemple de Dominique Farrugia qui est atteinte de la sclérose en plaques.
Mais c'est une demande des personnes elles-mêmes, cette campagne. C'est une demande des personnes, c'est une demande de l'ONU, c'est un engagement du président, donc c'est pas l'un ou l'autre. Je rappelle que nous investissons plus de 52 milliards sur le handicap, c'est 17% de plus en 5 ans, que ça soit à travers l'allocation adulte handicapé, à travers les solutions de logement, à travers l'emploi, à travers l'école, près de 4 milliards investis dans la scolarisation, donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
Mais l'accessibilité, vous le conviendrez, ça reste l'une des premières préoccupations des personnes handicapées. On parle là de l'accès au logement, bien souvent pas ou mal conçu pour accueillir des fauteuils roulants, des entreprises, des transports, des écoles. La loi de 2005 qui imposait de faire des travaux d'accessibilité avant 2015 a fait l'objet de multiples dérogations. On parle de 2024 désormais pour certains lieux. C'est 19 ans après le vote de la loi.
Alors, nous avons travaillé depuis cette loi. Nous travaillons avec les collectivités locales pour l'accessibilité du quotidien, c'est-à-dire comment j'accompagne les petits commerçants maintenant à se mettre en accessibilité. Les grands établissements recevant du public sont accessibles. Maintenant, c'est la petite, je dirais vraiment le petit commerçant, comment je vais prendre mon café, comment je vais chercher ma baguette de pain. Nous avons les ambassadeurs d'accessibilité à côté des commerçants et l'État prend en charge justement le salaire de ces ambassadeurs en service civique pour accompagner les collectivités. C'est ça qui est important, nous devons accélérer. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Quand il y a par exemple des mobilités sur les transports, quand vous avez par exemple un tramway, et ben, toute la cité se transforme. J'étais pas plus tard qu'il y a pas longtemps à Angers, à Dijon. On voit bien que quand les maires, les collectivités locales, les agglomérations s'emparent de la mobilité avec les transports, et bien ça transforme l'ensemble des mobilités, pas que pour les personnes à mobilité réduite, qui sont à peu près 8% des personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées, pour les personnes personnes en famille nombreuse. Donc c'est un investissement gagnant-gagnant pour l'ensemble de la société.
Merci beaucoup Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, de nous avoir présenté cette campagne de sensibilisation nécessaire. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 6h16, vous restez avec nous sur Europe 1, la partition du groupe Lynyrd Skynyrd. À tout de suite.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil et bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 6h19. Voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Les prix du carburant à leur plus haut niveau historique. 1,55€ le litre de diesel, 1,62€ le sans-plomb 95. Le gouvernement travaille sur la mise en place d'un chèque carburant pour alléger les factures. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, le confirmait hier sur Europe 1. Le pass sanitaire prévu pour durer jusqu'au 15 novembre sera-t-il prolongé jusqu'à l'été prochain? L'opposition n'en veut pas. C'est pourtant sur ce fameux projet de loi de vigilance sanitaire que les députés vont se pencher ce soir à l'Assemblée. Et puis quatrième demande de remise en liberté hier pour Cédric Jubilard, mis en examen depuis le mois de juin pour le meurtre de sa femme Delphine. L'infirmière a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn.
On termine avec votre partition Omblin qui nous ramène il y a 44 ans. Le 19 octobre 1977, le groupe Lynyrd Skynyrd donne son tout dernier concert avant d'être frappé par une tragédie dont il ne va pas se remettre.
Oui, Lynyrd Skynyrd, Julien, c'est le groupe américain de référence du rock sudiste dans les années 70. Le Southern Rock est reconnaissable grâce à ses longs solos de guitare électrique. Ce genre est né sur les terres du blues et de la country et reste la chasse gardée des États du Sud.
Lynyrd Skynyrd est formé en 1964 à Jacksonville, en Floride, et en cet automne 1977, il présente son cinquième album, Street Survivors.
Un succès immédiat dès sa sortie. Lynyrd Skynyrd assure au même moment une tournée promotionnelle qui chaque soir fait salle comble. Il faut dire que cette fois, les musiciens ont vu grand, une tournée ambitieuse avec beaucoup de dates et avec comme point d'orgue un concert au Madison Square Garden à New York.
Et pour le moment, ils sont à Greenville, en Caroline du Sud.
Voilà, et ce 19 octobre 1977, ils arrosent d'alcool un nouveau triomphe sur scène. Le lendemain, ils doivent prendre l'avion direction Baton Rouge en Louisiane, à un peu plus de 1000 km de là.
Sur le tarmac de l'aéroport, les membres de Lynyrd Skynyrd se montrent plutôt anxieux avant de monter à bord de l'avion qu'ils ont loué.
Un Convair 240 capable de transporter 40 personnes, un bimoteur vieux de 30 ans qui deux jours plus tôt avait vu des flammes s'échapper de son moteur droit. Mais malgré ce signal d'alarme inquiétant, tous les musiciens s'installent à bord de l'appareil, poussés par le chanteur, le charismatique et talentueux Ronnie Van Zant, reconnaissable avec son chapeau entouré d'une bande en peau de serpent. La légende raconte qu'il s'attendait au pire et avait affirmé qu'il ne fêtera jamais son 30e anniversaire.
À 17h02, très précisément, l'avion décolle de l'aéroport de Greenville.
1h40 plus tard, les pilotes envoient un message de détresse par radio. Ils avaient fait le plein avant de partir et ils se retrouvent pourtant à court de carburant. L'avion finit sa course dans une forêt entre le Mississippi et la Louisiane, faisant 6 victimes, dont 2 membres de Lynyrd Skynyrd, le guitariste Steve Gaines et le chanteur Ronnie Van Zant, 29 ans. Les musiciens rescapés attendront 10 ans avant de se retrouver pour un concert hommage.
Le succès emblématique de Lynyrd Skynyrd sur Europe 1, Sweet Home Alabama, sorti en 1974.
Ça fait du bien. Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko va nous rejoindre dans ce studio. À tout de suite.
Europe Matin. Il est 6h27 sur Europe 1 et c'est l'heure pour nous, Julien, de s'éclipser. Mais vous, vous restez.
Oui, pour la suite de votre matinale avec Dimitri
Pavlenko. Vous restez, Julien ? Oh, mais non, mais c'est trop gentil.
Non, moi je vais aller me coucher, préparer la matinale de demain.
Bon,
voilà,
écoutez,
de manière très consciencieuse et je vous laisse la main.
Voilà, il est 6h27, Julien est déjà à demain matin.
Ouais.
C'est l'homme
fou,
à
J+1.
Vous êtes formidables tous les deux. Bon, allez vous reposer. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.